Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans l'épisode spécial WWDC 2022. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence d'inauguration de la WWDC hier soir, mais en tout cas, pour mon cas, j'ai qu'un seul mot à dire, waouh, waouh, waouh. On s'attendait à beaucoup de choses qui avaient été dites dans les rumeurs. Beaucoup de choses ont été annoncées hier soir, pas toutes. Toutes les rumeurs n'étaient pas vraies, du moins pas hier soir en tout cas. Mais en tout cas, je trouve qu'on a quand même été grandement récompensé. Il y a beaucoup de choses qui manquaient sur les OS d'Apple et il y a beaucoup de choses qui commencent et qui finissent par arriver. Il y a aussi pas mal de news qui étaient présentes dans les rumeurs dont on n'a pas entendu parler hier soir. Alors, soit c'est des news qui ne seront pas implémentées cette année, soit on a encore des chances pour en savoir plus pendant la semaine de la WWDC. Il y a pas mal d'ateliers qui vont se passer tout au long de la semaine. Donc, on apprendra encore certaines news, je pense, tout au long de cette semaine qui va arriver là. Et puis, c'est pareil, il y a aussi pas mal de news, je pense, qui seront annoncés avec les nouveaux iPhone 14 à la rentrée. Ils ne peuvent pas tout dire. Il y a des fonctions qui sont directement liées aux nouveaux appareils. Donc voilà, je pense qu'on aura encore droit à pas mal de nouveautés, concernant l'OS en tout cas, à la rentrée en septembre. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'ai trouvé que c'était une très 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 bonne WWDC. J'ai eu peur jusqu'à la fin, mais bon, je vous en parlerai dans l'épisode. Il y a pas mal de choses qui m'intéressaient réellement moi, que je voulais voir arriver. Et c'est des choses qui ont été annoncées dans les 5 dernières minutes, on va dire. Donc voilà, j'ai eu peur jusqu'à la fin. Mais au final, c'était quand même vraiment une très 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 bonne conférence d'inauguration de WWDC. Alors on va faire un peu dans l'ordre qu'Apple a présenté ses produits. On va commencer par iOS. Je vais pas vous détailler dans cet épisode toutes les nouveautés. Je vais aller sur les gros points, les points importants, parce que c'est de décliner toutes les nouveautés, ça prendrait des heures et c'est pas forcément le plus important dans un épisode comme celui-ci. Mais voilà, de toute façon, je reviendrai dans les mois, dans les semaines à venir, pendant tout l'été, sur toutes les nouveautés, une par une. S'il y a des choses importantes à développer, je reviendrai dessus sur des points bien précis. Pour ma part, j'ai téléchargé iOS 16 dès la sortie hier soir. Donc voilà, là je commence déjà à le tester sur un ancien iPhone, sur mon iPhone 10. Donc voilà, je vais pouvoir le tester tout au long de cet été, tester les différentes mises à jour et je reviendrai dessus, comme je vous dis, tout au long du mois de juillet, au mois d'août, jusqu'à sa sortie officielle en septembre. Donc revenons sur iOS 16. Je trouve vraiment qu'iOS 16, cette année, ils ont mis l'accent sur la personnalisation. On savait que le lock screen en fait de l'iPhone allait être un point important. On savait qu'ils avaient beaucoup travaillé dessus. C'était dans les rumeurs depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de mois. Et il y a pas mal de choses au final qui sont arrivées. Alors, le lock screen, comme je vous dis, on va pouvoir le personnaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On va pouvoir personnaliser la police qui sert pour l'heure et puis la date. On va pouvoir personnaliser justement la date que vous aviez au-dessus de votre écran ou en dessous de l'heure plutôt. Vous allez pouvoir mettre la météo maintenant. Vous allez pouvoir changer tout un tas de choses. Les deux boutons qui sont en bas, le bouton appareil photo et le bouton torche, on va pouvoir aussi les modifier, mettre les applications dont on a réellement besoin le plus souvent. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'était quelque chose qui était vraiment demandé depuis pas mal de temps par les utilisateurs. Aussi, pas mal de personnalisation concernant les fonds d'écran, les wallpapers. L'endroit où vous allez pouvoir retrouver vos fonds d'écran ressemble vraiment à s'y méprendre à l'interface qu'on a sur l'Apple Watch, enfin sur l'application de l'Apple Watch pour changer les fonds d'écran de la montre. Donc voilà, c'est une unification des interfaces, donc c'est vraiment pas mal. Et là, on a, contrairement aux autres années où on avait 10 ou 12 fonds d'écran, là, on a vraiment, vraiment, vraiment accès à beaucoup, beaucoup de choses. Et vous allez pouvoir créer vos propres fonds d'écran directement à partir du téléphone. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. En termes de personnalisation, Apple a vraiment mis l'accent là-dessus cette année. On n'a pas entendu parler par contre du Always On, et comme je vous disais au début, je pense que cette fonction-là va être liée directement aux nouveaux iPhones, aux iPhone 14 à la rentrée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler. Mais de pas mal de tweets que j'ai vus hier soir, il y a quand même pas mal de fonctions qui font penser que c'est plus un secret maintenant, que le Always On va vraiment arriver sur les prochains iPhones. Donc voilà, ce n'est que 2 mois à attendre, mais c'est une fonction qui devrait aller, on va dire, à 80-90%, qui devrait arriver sur les nouveaux iPhones à la rentrée. Au niveau des notifications aussi, ils ont changé pas mal de choses. Ils ont ajouté une fonction qui s'appelle Live Activities. En fait, c'est une espèce de notification de widget, mais qui se rafraîchit en temps réel. Alors, j'en avais parlé dans un épisode dernièrement. Beaucoup de gens demandaient les widgets interactifs sur l'iPhone et sur l'iPad. Alors, c'est pas encore ce que tout le monde demandait. C'est pas les widgets sur lesquels on peut interagir directement, mais c'est un bon début, j'ai envie de dire. À la place d'avoir un widget qui va être statique, qui ne va pas bouger et qui va falloir rafraîchir en ouvrant l'application à chaque fois, là vous aurez votre widget. Alors ils ont pris dans la conférence, ils ont pris comme exemple un widget de sport qui suit un match de basket ou un match de baseball, je sais plus. Mais voilà, vous aviez le compteur du match, le temps qui reste dans le match qui était en temps réel. Vous aviez le score qui se rafraîchissait en temps réel. Donc voilà, c'est encore pas les widgets interactifs tels qu'on les voulait, tels que ça avait été dit dans les rumeurs, mais c'est un bon début. Les widgets commencent à devenir un tout petit peu plus interactifs, du moins ils se rafraîchissent en temps réel, et c'est vraiment une bonne chose. Après, ils ont pas mal parlé du mode focus. Il y a pas mal de fonctions aussi qui arrivent dans le mode focus, notamment les fonds d'écran qui peuvent changer en fonction du mode focus que vous utilisez. Alors ça, c'était quelque chose que l'on pouvait déjà faire. Si vous voulez le faire avant iOS 16, c'est tout à fait possible. Vous cherchez un petit peu sur Internet, il y a des tutos un peu partout. Vous pouvez le faire directement par raccourci avec l'application raccourci. Donc voilà. C'est bien que ça soit intégré directement dans l'OS, mais c'était quelque chose qui était déjà faisable et qui était déjà utilisable depuis pas mal de semaines, pas mal de mois maintenant. Après, ils ont parlé de messages. Messages, quelques petites nouveautés dans messages. Notamment, on va pouvoir éditer et effacer des messages qui viennent d'être envoyés. Alors, j'ai pas forcément compris combien de temps on avait après l'envoi du message, mais voilà, au moins, ça n'existe encore pas sur Twitter. Mais ça existe déjà dans iMessage et c'est pas mal. Vous envoyez un message, si vous vous rendez compte que vous avez fait une faute ou quoi que ce soit, vous pouvez tout de suite, après l'envoi du message, l'éditer ou l'effacer, et c'est vraiment une bonne chose. Des petites nouveautés aussi dont ils ont parlé avant d'attaquer vraiment les grosses nouveautés, enfin ce que je trouve être les grosses nouveautés, le live text qui est compatible maintenant avec la vidéo. Avant c'était compatible qu'avec la photo, donc maintenant vous faites un screenshot vous faites un pause dans une vidéo, vous pouvez utiliser le live text pour aller traduire un mot, traduire une phrase, traduire un texte, toutes les choses qui étaient possibles avec live text seront maintenant compatibles avec la vidéo. Ils ont aussi montré une fonction de détourage d'un objet. Alors dans l'exemple qu'ils ont pris, il montrait un chien sur une photo qui détourait directement d'un simple geste, et le chien détouré pouvait être utilisé pour être partagé dans message. Alors d'après ce qu'ils ont dit et d'après ce qu'on a vu lors de la conférence, ça, on va pouvoir le faire avec des objets, avec des animaux, avec peut-être même des personnes, d'après ce que j'ai vu dans une slide de la keynote. Donc voilà, ça sert pas forcément à grand chose, je vous l'accorde, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut faire, et ça montre un peu les avancées de l'intelligence artificielle. Alors elle sait reconnaître vraiment un objet. De ce qu'on a vu, le détourage a l'air vraiment vraiment bien fait. Donc voilà, je vous dis pas que ça a forcément une grosse utilité, mais vous allez pouvoir faire un autocollant dans iMessage, je sais pas, de votre chien, de quelque chose, de toutes les choses qui sont autour de vous. J'ai pas forcément d'exemple là, mais c'est une fonction qui est maintenant possible, et comme je vous le dis, ça montre les possibilités de l'intelligence artificielle dans l'iPhone, et c'est vraiment une bonne chose. Après, ils sont passés sur, d'après moi, enfin ce que je trouve les grosses nouveautés d'iOS cette année, pas mal de nouveautés déjà concernant Wallet. Dans Wallet, maintenant, on va pouvoir partager des clés enregistrées directement dans votre Wallet avec iMessage. Donc, à l'exemple qu'ils ont donné, vous partez en vacances, vous êtes dans un hôtel, vous voulez partager la clé avec quelqu'un, vous avez juste à lui envoyer directement par message, il la reçoit, il peut s'en servir. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont... Enfin, on va dire, c'est des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui n'étaient pas présentes dans l'OS et qui peuvent faciliter grandement la vie des utilisateurs. Toujours dans Wallet, ils ont montré le Tap to Pay pour Apple Pay. Alors, pareil, j'ai pas forcément compris si ça allait être disponible tout de suite en Europe, mais en tout cas, ils en ont parlé depuis le temps qu'on disait que ça arrivait, on le savait qu'Apple travaillait là-dessus. Ben voilà, maintenant c'est officiel. Tap to Pay est arrivé dans le Wallet de l'iPhone. Maintenant, reste à voir si ça sera disponible partout où Apple Pay est disponible, c'est-à-dire en Europe aussi. Ça, j'ai encore pas la news au moment où j'enregistre cet épisode, mais nul doute qu'on va avoir la news dans les jours, dans les semaines qui viennent. Autre grosse nouveauté, et celle-là, pour le coup, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Ils ont parlé d'un nouveau service qui s'appelle Apple Pay Later, qui en fait est un service qui va vous permettre de payer des gros objets, des gros achats en plusieurs mensualités sans frais. Alors d'après ce qu'ils ont dit dans la conférence, ça devrait fonctionner partout. Enfin c'est exactement la phrase que Craig Federighi a utilisée. Ça devrait fonctionner partout où fonctionne Apple Pay. Donc je ne vois aucune restriction pour que ça marche en Europe aussi. Donc c'est un service qui va vous permettre. Alors j'ai pas compris si on pouvait mettre plus de mensualités. Dans tous les exemples qu'ils ont donnés lors de la conférence, ils ont montré 4 mensualités sans frais. Est-ce que ça va être tout le temps comme ça ou est-ce que vous allez pouvoir payer en 5, 6, 7 mensualités? Je ne sais pas. En tout cas, déjà avec 4 mensualités sans frais, quand vous avez un gros achat à faire de 5, 600, 700 euros, bah c'est toujours une bonne chose. Donc j'espère vraiment que ce qu'a dit Craig Federighi lors de la conférence sera vrai et que ça arrivera partout où fonctionne Apple Pay, c'est-à-dire même en Europe. Donc voilà, ça c'est les grosses nouveautés dans Wallet et je trouve que c'est franchement pas mal. Il était temps que Wallet s'étoffe un petit peu en termes de nouveautés. Après, ils sont passés à Maps et là, je pense à notre ami Eli Abitbol du podcast iWeek. Le nouveau Maps arrive enfin en France et dans d'autres pays, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la France. On le sait, beaucoup de personnes attendaient le nouveau Maps, comme il est disponible aux États-Unis depuis pas mal de mois maintenant. Ça y est, ça arrive en France. Alors, je ne pense pas que ça sera disponible dans toutes les villes, mais en tout cas, dans les grosses villes, le nouveau Maps ne devrait pas tarder à arriver. Et on le sait, ces dernières semaines, ça avait fait des news sur pas mal de blogs. Les voitures Apple, les voitures de cartographie Apple tournent beaucoup, beaucoup en France en ce moment. Donc voilà, on le savait et c'était pour ça. Le nouveau Maps arrive enfin et c'est vraiment une bonne chose. Service qui, par contre, lui, n'est toujours pas disponible en France. Ils en ont parlé parce qu'ils ont implémenté une fonction concernant le sport, les news de sport. Mais en tout cas, nous, en Europe, on n'y aura toujours pas droit. Alors, quand je dis en Europe, avec de gros guillemets, parce que le Royaume-Uni, lui, c'est possible. Mais bon, le Royaume-Uni, après le Brexit, est-ce qu'on peut le considérer encore en Europe? Mais en tout cas, Apple News n'est toujours pas disponible pour la France et pour d'autres pays. C'est toujours disponible, comme ça l'était auparavant, États-Unis, Australie, Royaume-Uni et le quatrième pays, je ne sais plus. Enfin bref, il y a 4 pays dans lesquels Apple News est disponible. Mais tous les autres, on n'y a encore pas droit. Donc, ça doit être le Canada, le quatrième pays. Donc voilà, j'aimerais bien à terme que ça arrive en France, mais ça sera encore pas, je pense, pour iOS 16. Autre grosse news, et par contre, celle-là m'intéresse vraiment, vraiment. Ça concerne l'application Home sur l'iPhone. Alors, gros, gros, gros redesign de l'application Home. Et j'ai envie de dire, il était temps. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai téléchargé iOS 16 depuis hier soir et je commence à m'amuser avec. Et c'est vrai que l'application News, ça change vraiment. Alors, l'interface de l'ancienne application me dérangeait pas plus que ça. Elle était utilisable pour des personnes comme moi qui font beaucoup de domotique chez eux et qui utilisaient l'application Home depuis sa sortie. On s'y était fait, on s'était fait à l'interface. Mais c'est vrai que le redesign de l'application est vraiment, vraiment, je trouve, beaucoup plus intuitif. C'est beaucoup mieux rangé. Maintenant, ça se distingue bien avec des catégories de produits. Vous avez vos ampoules d'un côté, vous avez vos interrupteurs de l'autre, vos prises. Enfin, voilà. Concernant aussi les caméras, maintenant, au lieu d'avoir les caméras l'une en dessous de l'autre comme c'était avant et qu'il fallait scroller, si vous aviez plusieurs caméras comme moi qui en ai 5 à la maison, fallait scroller pour trouver une caméra. Maintenant, vous avez une multiple vue et vous avez toutes vos caméras au même endroit. C'est vraiment plus simple. Alors, c'est un peu plus petit, bien sûr, sur un iPhone d'avoir une vue comme celle-ci, mais c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Concernant les widgets de l'application Home, je vous avais fait un article il n'y a pas très longtemps d'une application tiers qui pouvait vous permettre de créer des widgets sur votre home screen, sur votre springboard d'iPhone. Alors quand ils ont parlé des widgets pour l'application Home, je me suis dit ça y est, cette application elle est morte, on n'en entendra plus parler parce que Apple rentre dans le jeu et elle va faire son propre système. Et au final, je me dis que cette application dont je vous ai parlé il y a quelques semaines maintenant, a encore de beaux jours devant elle parce que les widgets pour l'application Home sont présents maintenant, mais seulement sur le lock screen. Du moins de ce que j'ai vu depuis hier soir là, on peut encore pas les mettre sur le springboard de l'iPhone. Donc voilà, cette application dont je vous avais parlé a encore quelques beaux jours devant elle, mais maintenant, en tout cas, on peut mettre des widgets de l'application Home sur le lock screen de l'iPhone, pardon, et c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas le widget que l'on peut mettre sur le lock screen, il n'est pas interactif, vous pouvez pas interagir avec. Du moins, si, mais il faut cliquer dessus comme les anciens widgets. C'est pas un widget qui va se rafraîchir en temps réel. Mais franchement, c'est une bonne chose d'avoir ce type de widget sur le lock screen de l'iPhone. Dernière chose concernant iOS, ils ont parlé de CarPlay. Alors rien d'annoncé pour l'instant, en tout cas rien qui va sortir, mais de grosses grosses annonces, ce qu'ils appellent comme ils le font depuis pas mal d'années maintenant, un sneak peek. Donc ils ont annoncé un gros 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 redesign de CarPlay. Et je vous avais fait un épisode il y a pas très longtemps de podcast. Où je vous disais que je devais changer de voiture cette année, et la question que je me posais en fait, c'était pour un utilisateur d'iPhone, un power user d'iPhone comme moi, qui utilise vraiment mon iPhone énormément et qui utilise quasiment toutes les fonctions de mon iPhone, enfin du moins j'essaye, au moins pour le blog, pour le podcast, pour vous en parler en tout cas, je me demandais dans cet épisode, pour quelqu'un qui comme moi qui voudrait changer de voiture et qui voudrait enfin, qui veut absolument prendre un véhicule électrique, quel était le bon choix? Se tourner vers Tesla ou alors se tourner vers un véhicule électrique d'une autre marque, d'une marque européenne, mais compatible avec CarPlay, pour avoir la meilleure interaction avec son téléphone. Et quand je vois le redesign de CarPlay cette année, ça pourrait clairement faire pencher la balance vers la deuxième solution, en tout cas. Je devais changer là dans les mois qui viennent de voiture. Je pense que je vais attendre encore quelques mois de plus, on va dire 6 mois de plus. Ils ont annoncé que les nouveautés de CarPlay, enfin les véhicules qui seraient compatibles avec ce nouveau CarPlay seraient annoncés normalement fin d'année, début d'année prochaine. Donc je vais attendre au moins cette annonce pour voir les véhicules qui seront compatibles. Mais clairement, CarPlay commence à ressembler à quelque chose et ça fait réellement, réellement plaisir. Et quand j'ai vu ces annonces sur CarPlay, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est on entend parler depuis pas mal de mois du projet Titan. Alors c'est le projet Titan, c'est ce qui concerne, on va dire, du moins l'inconscient collectif, c'est ce qui concerne l'Apple Car depuis pas mal d'années. Tout le monde s'était mis dans la tête qu'Apple faisait une voiture et c'est peut-être encore possible. Mais quand je vois un tel redesign de CarPlay, Je me dis, est-ce que justement ce redesign complet ne serait pas une des facettes du projet Titan? Est-ce que vraiment Apple travaille depuis tout ce temps sur une voiture? Ou comme ça avait été dit quelquefois, Apple ne travaillerait que sur une interface de voiture et ça pourrait clairement y ressembler quand on a vu les images hier soir lors de la conférence de la WWDC, ça pourrait vraiment y ressembler. Les images qu'on a vues, alors ça sera certainement pas dans toutes les voitures comme ça. Là, on avait un écran, un long écran qui faisait quasiment tout le tableau de bord de la voiture, plus un autre écran en dessous. Clairement, vous n'aurez pas ça dans toutes les voitures, mais il y a certainement des véhicules qui vont sortir avec cette interface-là, et ça pourrait ressembler au projet Titan. Voilà pour sur quoi Apple pourrait travailler, serait en train de travailler du moins depuis plusieurs années. Ça serait peut-être tout simplement, entre gros guillemets le tout simplement, mais ça serait peut-être une énorme interface pour véhicules électriques. Et si c'est ça, franchement, ben je trouve que ça ressemble à, enfin c'est vraiment vraiment beau, ça ressemble vraiment à quelque chose. Donc voilà, j'ai déjà fait 20 minutes sur iOS. iOS a été assez complet, je trouve, cette année. Alors les compatibilités avec iOS, il y a quelques iPhones qui sortent de la gamme, notamment les iPhones SE de première génération, le 6S et le 6S Plus, le 7 et le 7 Plus. Tous ces téléphones ne seront pas compatibles avec iOS 16, mais tous les iPhones au-dessus, donc c'est-à-dire à partir du 8, vous aurez, si vous possédez un de ces téléphones, vous pourrez installer iOS 16 dès la rentrée en septembre. Je vous déconseille, comme d'habitude, et j'en ai déjà fait des articles et même des épisodes de podcast, si vous n'êtes pas habitué, je vous déconseille vraiment d'installer les bêtas. Du moins, en tout cas, pas les bêta développeurs. On peut les trouver sans aucun problème sur le web depuis hier soir. Mais si vous n'êtes pas familiarisé avec ces systèmes, je vous déconseille de les installer, en tout cas sur vos téléphones de tous les jours, sur vos téléphones de production. C'est vraiment pas des OS qui sont stables à 100%. Donc voilà, si vous avez un iPhone à côté dont vous ne vous servez pas et que c'est un téléphone juste pour faire ça, oui, téléchargez-le, essayez-le, amusez-vous avec jusqu'à la rentrée. Sinon, attendez la rentrée pour installer iOS 16. Ça sera beaucoup, beaucoup plus sûr. Donc voilà, c'est tout pour iOS. Maintenant, on va passer sur Apple Watch OS 9. Franchement, pas grand-chose. On attendait, j'en avais parlé dans un épisode spécial il y a 2 ou 3 épisodes, on attendait pas mal de choses concernant l'Apple Watch et concernant la santé. Alors, il y a eu quelques petits trucs d'annoncés, mais pas toutes les nouveautés qui étaient dans les rumeurs. Donc, c'est un peu dommage. Mais il y a quand même eu quelques petits trucs d'annoncés. Comme d'habitude, de nouvelles watch faces, de nouvelles comment personnalisation de la montre, mais ça c'est pas une grosse nouveauté, on l'a tous les ans. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Pas mal de nouvelles métriques maintenant quand vous faites du sport et notamment du running, il y a pas mal de métriques que vous aurez en plus. Les calculs de l'intervalle training quand vous faites de l'intervalle training, notamment en course à pied. Voilà, maintenant ça sera disponible directement sur l'Apple Watch. Autre nouveauté qui a été annoncée et que je trouve pour le coup vraiment pas trop mal, vous aurez plus besoin d'une Apple Watch pour avoir l'app activité fonctionnelle sur votre iPhone. Maintenant, ça sera disponible sur tous les iPhones. Alors bien sûr, vous n'aurez pas tous les cercles que vous avez sur l'Apple Watch, notamment le cercle vert et le cercle bleu, mais vous aurez quand même quelques données qui seront calculées directement par rapport au capteur de vos iPhones. Et voilà, c'est une bonne chose. Ça sera des données en plus, des data en plus. Donc c'est bien, ça sera disponible pour tous les nouveaux iPhones, enfin pour tous les iPhones, mais vous aurez plus besoin d'avoir une Apple Watch directement. Après, ils ont parlé du sommeil. On attendait beaucoup du sommeil cette année. Il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de pas mal de grosses nouveautés concernant le système de sommeil. Alors oui. Mais pas grand-chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Oui, on aura plus de données, la montre va recueillir plus de données, mais il n'y aura toujours aucun traitement de ces données. Donc voilà, c'est bien d'avoir des données en plus, mais quoi en faire, j'ai envie de dire. Je pense que alors est-ce que ça va évoluer dans les semaines, peut-être à la rentrée, peut-être comme je vous le disais au début de l'épisode. Peut-être que c'est la nouvelle Apple Watch qui fera qu'on aura les nouveautés qui vont avec. Mais en tout cas, là, pour ce qu'ils ont annoncé pour WatchOS 9, il y a quelques données en plus concernant le sommeil, mais rien de transcendant. Il va falloir attendre, je pense, les nouvelles Apple Watch à la rentrée pour en savoir plus sur ce côté-là. Nouvelle app sur l'Apple Watch, et ça c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans l'épisode concernant les rumeurs de l'Apple Watch. C'est quelque chose dont on parlait pas mal, notamment aux États-Unis. Il y a une nouvelle app sur la prise de médicaments qui sera disponible directement sur l'Apple Watch, enfin dans l'application santé, mais qui se répercutera sur l'Apple Watch. Donc voilà, une nouvelle app de prise de médicaments qui va vous permettre de vous notifier quand vous avez des médicaments à prendre, de vous donner un historique des médicaments que vous avez pris, aussi pas mal de choses concernant si vous avez plusieurs médicaments à prendre en même temps. Si les médicaments vont bien ensemble, si vous pouvez les prendre en même temps, enfin voilà, ce genre d'application qui va vous permettre de gérer un peu votre prise de médicaments. Alors ça sera pas utile à tout le monde, je suis bien d'accord, mais sur un appareil qui est censé et qui va dans le sens de la santé, voilà, c'était une app qui manquait et elle arrive enfin, donc c'est une bonne chose et ça servira sûrement à énormément de monde. Voilà, c'est à peu près tout sur WatchOS 9, les grosses nouveautés, enfin les grosses nouveautés, les nouveautés en tout cas. On attend, comme je vous le disais, on attendait beaucoup d'Apple WatchOS 9 et j'ai trouvé que c'était mi-figue mi-raisin cette année. WatchOS 9, il y a quelques petites nouveautés, mais rien de transcendant, rien d'extraordinaire. Va falloir attendre, je pense, les nouvelles Apple Watch pour en savoir un peu plus à la rentrée. Après, ils sont passés sur une grosse, grosse, grosse partie de la conférence. Ils ont parlé de Mac et de macOS. Alors déjà, ils ont parlé de macOS en dernier, mais ils ont commencé par une autre partie et quelque chose en fait qu'on n'attendait pas. Du moins qu'on n'attendait pas dans cette configuration-là, j'ai envie de dire. Alors, pour revenir, pour mettre les choses à plat, dans les dernières rumeurs, ces derniers jours, ces dernières semaines, il était dit que si matériel devait être annoncé lors de la WWDC, au début, on parlait beaucoup du MacBook Air lors de cette WWDC, et au fur et à mesure des semaines, le MacBook Air a plus ou moins disparu. Mark Gurman, Ming Chi Kuo disaient qu'il serait pas annoncé à cette conférence, qu'il serait annoncé plus tard dans l'année. Et tout le monde voyait plutôt le Mac Pro arriver, ou du moins être annoncé en tout cas à cette WWDC. Car on sait que le Mac Pro, c'est le dernier Mac qui doit fermer la marche des 2 ans du passage au processeur Apple Silicon. Donc voilà, on attendait beaucoup, beaucoup du Mac Pro. Mais au final, ce n'est pas le Mac Pro qui a été annoncé. On n'en a même absolument pas entendu parler. Donc il reste à Apple à peu près 3 mois pour être dans les 2 ans, d'aller jusqu'à octobre, début novembre pour boucler les 2 ans. Donc voilà, je pense qu'on aura des nouvelles de ce MacBook Pro, peut-être en fin de keynote à la rentrée avec les iPhones, ou peut-être une keynote spéciale avant le mois de novembre. Mais en tout cas, hier, on n'en a absolument pas entendu parler. Donc ils ont commencé cette section par annoncer, et c'est pareil, c'est quelque chose que les derniers analystes, enfin que les analystes ne voyaient plus arriver, du moins pas hier soir. Apple a annoncé l'arrivée du M2, du processeur M2, le remplaçant du M1 de base bien sûr, hier soir. Donc c'était quelque chose, on va pas dire d'exceptionnel. Enfin, oui, si, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel parce que dans les dernières rumeurs, toutes ces dernières semaines, il y a beaucoup disaient que le M2 ne sortirait pas à cette conférence, qu'il arriverait bien plus tard dans l'année, voire peut-être début d'année prochaine. Ben non, Apple a changé ses plans, ou du moins a passé au travers de tout ça, et a annoncé son M2 hier soir. Alors, processeur, je vais pas vous détailler tout, mais le processeur est gravé en 5 nanomètres, il est beaucoup plus puissant que le M1, encore heureux j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous voulez toutes les caractéristiques de ce nouveau processeur, je vous invite vraiment à aller chercher sur le net. Les news sont disponibles partout ou à regarder la conférence. Ils en parlent vraiment bien. Mais en tout cas, le nouveau M2 est maintenant disponible. Donc on sait que pas mal de machines, au fur et à mesure des mois qui vont arriver, là, vont passer au M2, notamment, je pense, l'iPad Pro. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'épisode. Donc nouveau M2, qui dit nouveau M2 dit nouvelle machine pour intégrer ce M2, et c'est là qu'ils ont annoncé le nouveau MacBook Air et le nouveau MacBook Pro 13 pouces, tous les deux compatibles avec la puce M2. Alors le MacBook Air, comme je vous disais, on n'en attendait pas beaucoup, enfin on l'attendait pas du moins pour cette conférence, mais il a été annoncé. Dans les dernières rumeurs, ces derniers mois, beaucoup voyaient le MacBook Air disponible dans toutes les couleurs comme le Mac, comme l'iMac, comme les derniers iMac. Non, au final, le MacBook Air a seulement une nouvelle couleur, les couleurs habituelles, c'est-à-dire noir, gris et or, plus un bleu qui est assez beau, je trouve. Franchement, ça change, mais bon, il y a beaucoup de gens qui le voulaient dans d'autres couleurs. Voilà, vous aurez seulement une couleur cette année en plus. C'est pareil au niveau au niveau de l'intérieur du MacBook Air. Beaucoup le voyaient avec un bezel blanc et le clavier en blanc. Non, au final, c'est exactement comme les MacBook Pro. Le bezel de l'écran sera noir et le clavier pareil. En fait, il y a juste la couleur bleue qui est, comme je le répète, qui est vraiment, vraiment bien faite, qui est disponible sur ce nouveau MacBook Air. Le MacBook Air est vraiment plus carré au niveau de son design, un peu comme les derniers MacBook Pro. Donc on voit que c'est vraiment le chemin qu'Apple a envie de prendre. Tous ces ordinateurs vont avoir à peu près le même design. On a pu ce design sur les MacBook Air qui était plus large à un endroit et plus court à l'autre extrémité. Maintenant, le MacBook Air a l'air assez plat de ce qu'on a vu hier soir, mais beaucoup plus carré. Ce MacBook Air est bien sûr disponible comme les derniers MacBook Pro avec le MagSafe, avec l'encoche, une nouvelle caméra 1080p, Touch ID. C'est vraiment un bel ordinateur, assez cher, je trouve, du moins en full configuration. En configuration de base, il est à 1199 $. J'ai pas eu le temps d'aller voir les prix en euros, mais voilà, 1199 $ pour le prix de base, 18 heures d'autonomie, ça a vraiment vraiment l'air d'être un bel ordinateur. Je vous avoue que c'est pas forcément la partie que j'ai le plus appréciée dans la conférence, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois, j'utilise plus de Mac depuis 4 ans maintenant. Ma machine principale, c'est mon iPad Pro. Donc voilà, c'est des belles machines, mais c'est pas des machines que je vais utiliser ou que je pourrais possiblement utiliser. Donc voilà, je vous en parle parce que ça a été annoncé, mais c'est pas des machines qui m'intéressent plus que ça. Autre machine qui a été annoncée, le MacBook Pro 13 pouces. Alors là, vraiment rien d'extraordinaire. Ils en ont parlé, ça a dû durer à peu près 15 secondes. C'est exactement le même MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme que les anciens modèles, sauf qu'il a la puce M2. Il est un peu plus puissant, mais c'est exactement la même machine. Disponible pour sa version de base à 1299 $. Ces deux machines seront disponibles le mois prochain. Alors j'ai pas regardé, c'est pareil, si les précommandes étaient déjà ouvertes, mais je ne pense pas, ça devrait arriver je pense après la WWDC. Mais voilà, ces deux machines seront disponibles assez rapidement. Maintenant, va falloir voir si Apple va réussir à les livrer avec la pénurie de composants, mais du moins d'après ce qu'ils ont dit, c'est des machines qui seront disponibles assez rapidement. Après, ils sont passés sur macOS, sur le nouveau macOS. Alors, beaucoup voyaient un macOS mammouth cette année. Eh non, ça sera macOS Ventura, le nouveau nom du système d'exploitation du Mac. Alors, pas mal de nouveautés sur macOS cette année, dont une nouveauté d'interface, mais j'en reparlerai un peu plus loin dans l'épisode. concernant l'iPad. Mais voilà, une nouvelle interface, qu'ils appellent Stage Manager, un nouveau rangement des apps quand elles sont ouvertes et que vous n'êtes pas en train de les utiliser. Enfin voilà, c'est une interface qui est vraiment, vraiment, je trouve, assez intuitive. Mais je vous en reparlerai juste après. Pas mal de nouveautés dans Spotlight aussi. Spotlight beaucoup plus puissant dans ce nouveau macOS. Nouveautés dans Mail. Il y a des nouveautés qu'on attendait réellement depuis très longtemps, qui étaient disponibles à l'époque dans des applications tierces de Mail, comme le rappelle-moi le plus tard. Des nouveautés concernant la recherche dans les mails. Voilà. Ils en ont parlé sur macOS, mais bien sûr, c'est des nouveautés. Toutes ces nouveautés concernant Mail, c'est des nouveautés qui seront dispo aussi sur iPhone et sur iPad. Pas mal de nouveautés sur Safari. Voyez, je vais assez vite hein, sur macOS Ventura. Mais voilà, j'ai envie de dire là, c'est des nouveautés incrémentales concernant l'OS. Et je l'avais dit dans un épisode, au fur et à mesure des conférences de WWDC, on le voit, il y a des années où ils sont plus portés sur un OS que sur un autre. Là, cette année, macOS Ventura, j'ai l'impression que c'était plutôt des nouveautés assez incrémentales. Il y a rien d'extraordinaire. Il y a des petites choses, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ils se sont plutôt focalisés sur d'autres OS cette année. Alors par contre, il y a une nouveauté sur macOS Ventura que j'ai trouvé assez géniale. C'est même pas une nouveauté, enfin c'est une nouveauté et un appareil que vous pourrez adjoindre à votre Mac. C'est un espèce de stand que vous pourrez mettre au-dessus de votre Mac. Alors, d'après ce qu'ils ont dit et d'après ce qu'on a vu lors de la conférence, je ne sais pas si Apple va faire l'ustensile qu'ils ont montré, mais en tout cas, il y a pas mal de constructeurs tiers qui vont le faire. En fait, c'est un espèce de stand que vous allez fixer au-dessus de l'écran de votre Mac qui va vous permettre d'y apposer votre iPhone et d'utiliser l'iPhone directement comme webcam pour votre Mac. Franchement, ça a l'air assez fou comme fonction. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, allez regarder la keynote. Ils ont montré des exemples et franchement, ça a l'air assez fou. Maintenant, à voir si Apple va faire un tel produit ou s'ils vont laisser la production du stand au constructeur tiers. J'ai vraiment pas l'info là au moment où j'enregistre. Tout ce que je sais, c'est qu'on a vu un appareil Belkin hier dans la conférence. L'appareil qui était noir au moment des démonstrations. Mais l'appareil qu'on a vu juste avant qui était blanc, je ne sais pas si c'est un appareil Apple. J'ai pas forcément compris si c'était Apple qui construisait et qu'on pourrait l'acheter sur l'App Store, sur l'Apple Store. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse nouveauté concernant macOS et je suis pressé d'en savoir un peu plus sur ce système. Donc voilà, c'est à peu près tout sur macOS. Vous voyez, c'est un peu brouillon concernant macOS, mais c'est comme je vous dis, c'est un OS que j'utilise vraiment très très peu. Donc, je suis pas forcément assez familier avec cet OS en ce moment. Après, ils sont passés enfin à iPadOS 16. Et c'était réellement ce que j'attendais de cette conférence de la WWDC 2022. Et je dois vous avouer que j'ai eu assez peur. Parce que si vous avez suivi la conférence, vous l'avez vu comme moi. Au début, ils ont commencé à parler d'iPadOS 16, en montrant, oui, certes, des nouveautés, mais rien d'extraordinaire. Au début, ils nous ont montré une application météo, enfin une application météo pour l'iPad. C'est vrai que c'était quelque chose qui était demandé depuis pas mal de temps sur l'iPad, mais en tout cas, mais bon, bref, c'était pas quelque chose de fou. Après, ils nous ont montré une fonction de collaboration un peu plus poussée. Alors, ils nous ont montré qu'on pouvait partager des onglets Safari sur l'iPad. Pareil, pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est bien pour la productivité, mais c'était vraiment pas des news extraordinaires. À ce moment-là de la conférence, je me suis dit, franchement, si c'est pour avoir iPadOS 16 cette année, avoir un iPadOS 16 cette année comme ça, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Les rumeurs disaient que ça allait être un iPadOS, enfin vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus porté sur la productivité cette année, un iPadOS qui allait plus ressembler à macOS. Je me suis dit, si c'est que ça, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ils sont passés sur un sneak peek. Alors, petit rappel, un sneak peek, c'est quelque chose qui vous montre en avance, mais qu'on n'aura pas avant plusieurs mois certainement. C'est pareil, un tableau blanc collaboratif, une nouvelle application qui va s'appeler Freeform. Pareil, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, ça peut servir en entreprise, mais c'était pas quelque chose de foufou quand même. Je vous le dis, à ce moment-là, je voyais vraiment pas où il voulait nous emmener, et j'étais vraiment vraiment déçu. Si la conférence s'était terminée là-dessus, j'aurais réellement été déçu, parce que les nouveautés d'iOS, oui, ok, bonne nouveauté. Les nouveautés de watchOS, c'était vraiment pas exceptionnel. macOS, c'était plutôt incrémental. Donc, si iPadOS 16 s'arrêtait à ces simples nouveautés-là, j'aurais réellement été déçu de la conférence de hier soir. Alors après, ils ont commencé à partir sur autre chose. Après, ils ont parlé d'une mise à jour de l'application Fichier sur l'iPhone, avec pas mal de nouveautés que j'attendais. Et là, j'ai commencé à reprendre des couleurs, j'ai commencé à retrouver un peu l'iPad que j'aimais. Donc voilà, ils ont montré pas mal de nouveautés dans Fichier. On va pouvoir gérer les fichiers dans notre application beaucoup plus finement. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. Après, ils sont passés sur un nouveau mode de l'iPad, ce qu'ils appellent un référence mode, pour avoir des couleurs beaucoup plus accurate, notamment pour les graphistes, pour toutes ces choses-là. Et à ce moment-là de la keynote, je me suis dit, allez, on commence à partir vraiment sur des fonctions professionnelles de l'iPad, peut-être que ça va mener à quelque chose. Et enfin, dans les 5 dernières minutes de la conférence, ils sont passés à la chose que j'attendais, et vraiment le point dont j'avais envie de parler ce soir. Si vous avez écouté les derniers épisodes de podcast, je demandais énormément de choses concernant iPadOS, parce que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, mon iPad Pro, c'est ma machine principale, c'est la machine que j'utilise absolument tous les jours pour faire tout ce que je fais sur le blog, sur le podcast. Donc vraiment, c'est ma machine de cœur. Donc j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, la plupart des choses que j'attendais ont enfin été annoncées sur l'iPad. Donc vraiment, vraiment, c'est une très, très bonne chose. Alors, petit point noir, même si pour moi, c'est pas forcément un point noir, mais ça pourrait décevoir pas mal de gens. Toutes les nouveautés dont je vais parler à partir de maintenant ne seront disponibles que pour les iPad Pro M1, ou du moins les M1 et les M qui arriveront après. J'ai franchement pas l'impression, à moins que je me sois réellement trompé, mais j'ai vraiment pas l'impression que toutes ces nouveautés seront disponibles sur les anciens iPad, même les iPad Pro. Donc moi, mon iPad de 2020, je pense pas que j'aurai accès à ces nouveautés. Alors ça serait vraiment une très 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 bonne nouvelle si j'avais tort sur ce point-là, mais je ne pense pas. Je pense que ces nouveautés ne sont disponibles que sur les iPad Pro avec le processeur M1, du moins pour l'instant. Alors, quelles sont ces nouveautés? Comme sur le Mac, la nouvelle interface va arriver. Alors, une interface qui ressemble, mais trait pour trait, à l'interface du Mac, avec des fenêtres flottantes. On le sait, on l'avait demandé, que le multitâche passe enfin avec les fenêtres flottantes. Donc voilà, ça arrive enfin sur l'iPad Pro. C'est vraiment une interface qui est assez folle. Vous aurez vos fenêtres au milieu de l'iPad, avec sur le côté une nouvelle interface, un nouveau rangement des dossiers des apps ou des dossiers qui sont ouverts sur votre appareil, mais que vous n'êtes pas en train d'utiliser. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre application Notes et que vous avez pas mal de fichiers vidéo qui sont ouverts, vous aurez tout ça rangé sur le côté de l'écran. Franchement, l'interface, Si vous utilisez l'iPad, si comme moi l'iPad est votre machine principale ou une machine que vous utilisez très très souvent, je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir la conférence, parce que cette interface, elle est réellement réellement folle. Alors moi, j'ai un iPad Pro de 2020, comme je viens de vous le dire, donc il va falloir que je change de machine pour bénéficier de cette interface. Donc voilà. Je pense que cette année, je vais garder mon iPhone 13 Pro Max et je vais plutôt me tourner vers un nouvel iPad Pro. Alors, possiblement, peut-être pas prendre un M1, peut-être attendre encore quelques mois pour prendre le M2, quitte à changer d'iPad, autant prendre réellement le dernier modèle. Je sais pas quand est-ce qu'ils seront annoncés, normalement en fin d'année. Donc voilà, je pense changer d'iPad cette année pour prendre un un iPad Pro, possiblement M2, et pour bénéficier de toutes ces nouveautés. Et pour finir sur cet iPad OS 16, la nouveauté que j'attendais, le point dont je vous parle depuis des dizaines d'épisodes. J'ai l'impression que je vous en parle quasiment à tous les épisodes, mais c'est réellement quelque chose que j'attendais depuis très 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 longtemps. Et c'est enfin arrivé, ça a été enfin annoncé sur l'iPad. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à énormément de monde. Il y avait toutes les personnes qui utilisaient l'iPad un peu sérieusement, j'ai envie de dire, comme machine de production, demandaient cette nouveauté. On va enfin avoir accès à la gestion complète des écrans externes sur l'iPad. Enfin, j'ai envie de dire quoi. Fini la recopie en 4 tiers de votre écran d'iPad sur un écran où vous pouvez rien faire, juste avoir une recopie d'écran qui sert. Mais je l'avais dit depuis des semaines, des mois même. Cette recopie d'écran en 4 tiers ne servait absolument à rien. Valait mieux travailler directement sur l'écran de l'iPad plutôt que de se brancher sur un écran. Aïe, enfin c'est fini sur iPadOS 16 avec les nouveaux iPad Pro M quelque chose. Vous pourrez enfin gérer les écrans externes, avoir un écran comme sur un Mac, avoir un écran externe, avoir une application sur votre iPad, avoir une autre application sur votre Mac, sur votre écran plutôt. Enfin voilà, enfin on va pouvoir, et ça sera en plein écran, on n'aura plus les deux énormes bandes noires sur le côté. Donc vraiment, vraiment. Et vous le sentez sûrement là au moment où je vous en parle. Je suis réellement, réellement content de ces nouveautés annoncées pour les nouveaux iPad Pro. Franchement, c'est tout ce que j'attendais de cette WWDC 2022. Et là, j'ai été réellement content de toutes les annonces. En tout cas, concernant iPadOS. Donc voilà, je vais vraiment me pencher sur iPadOS 16 ces deux derniers mois, comme sur iOS, tester toutes ces nouveautés, revenir sur le blog sur toutes ces nouveautés, vous faire des articles concernant toutes ces nouveautés, et vous en saurez plus tout au long de l'été. Dernier OS dont j'avais envie de parler, ça va être assez rapide au final, les dernières rumeurs de ces derniers jours disaient que on aurait pu avoir pas mal de nouveautés concernant tvOS, notamment peut-être une nouvelle Apple TV, alors qui n'aurait pas été annoncée, je pense, à la WWDC, mais tvOS aurait dû s'améliorer, c'était ce qui était dit depuis pas mal de mois, notamment avec une réelle application de domotique, une réelle application home dans tvOS. Eh ben, ça va être rapide parce que tvOS, ils en ont absolument, mais absolument pas parlé hier soir. Aucune news, aucune nouveauté, aucune parole sur tvOS lors de la WWDC 2022. Alors, est-ce qu'ils vont en parler dans les ateliers lors de cette semaine ? Je sais pas, je vais essayer de suivre les ateliers tout au long de la semaine pour voir s'il y a des nouveautés visibles sur cette plateforme. Mais en tout cas, là, dans la keynote inaugurale, on n'en a pas eu un seul mot. Donc c'est vraiment assez bizarre. Il y a des gens qui vont être déçus. L'Apple TV, c'est un appareil que j'aime énormément. Donc voilà, j'attendais au moins l'application Home sur l'Apple TV parce que voilà, c'est vraiment l'appareil sur lequel on peut gérer sa domotique sur Apple TV. Donc j'attendais au moins ça, on verra dans les semaines, dans les mois qui viennent. Peut-être comme l'Apple Watch, peut-être que pour parler des nouveautés logicielles de tvOS, ils attendent peut-être un nouveau matériel qu'ils nous proposeront plus tard dans l'année. À voir, vraiment, c'est un souhait que j'ai qui l'annonce avec une nouvelle machine, mais en tout cas j'aurais bien aimé qu'ils en parlent au moins un peu lors de cette conférence qui retrace au final les OS des machines, donc ça aurait été bien d'en parler à ce moment-là. Donc voilà. C'est à peu près tout, c'est à peu près le tour de toutes les nouveautés concernant les OS. Comme vous le voyez, s'il y a des OS qui sont un peu en demi-teinte, j'ai envie de dire, macOS parce que j'ai pas un gros intérêt pour la plateforme, watchOS, les nouveautés sont pas folles, on en attendait un peu plus. iOS, assez content vraiment de toutes les nouveautés qu'ont été annoncées sur iOS et du peu que j'ai testé depuis hier soir, là franchement j'aime vraiment, réellement cette nouvelle interface d'iOS. Comme je vous le disais, si vous avez l'occasion sur un ancien téléphone, pas sur votre téléphone de production, d'aller tester le nouvel OS, faites-le. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très stable. Mais franchement, moi j'aime bien l'interface. Pour le tester depuis hier soir, là, j'aime vraiment vraiment bien l'interface. Et puis iPadOS pour finir. Même si j'ai eu peur, ils m'ont fait vraiment peur au départ de la présentation. Ça s'est vraiment fini en apothéose et toutes les nouveautés que j'attendais pour iPadOS sont enfin arrivées ou du moins vont arriver à la rentrée. Donc je suis réellement content et je sais que je vais changer de machine cette année et bénéficier de tout ce que, de tout ce dont j'avais envie depuis pas mal de mois, depuis pas mal d'années même au final. Donc voilà, je vais pas faire plus long, ça fait déjà un épisode de 50 minutes, c'est déjà très 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 long pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris quelque chose. J'espère que les nouveautés concernant les OS d'Apple vous ont plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des nouveautés qui vous plaisent un peu plus que d'autres. Si comme moi vous êtes plus tourné vers iPadOS, si c'est les nouveautés d'iOS qui vous plaisent le plus. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire sur le blog. N'hésitez pas, ou tout commentaire qui aura un rapport avec cette WWDC, je serai très 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 content de vous répondre sur les commentaires du blog. Donc voilà, je vais pas faire plus long. N'hésitez pas, si vous ne l'avez encore pas fait, à aller mettre 5 étoiles et un commentaire dans Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode et tout au long de cette semaine pour de nouveaux articles concernant les nouveaux OS. À la prochaine, ciao!